sommes dimanche 28 janvier 2024. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et merci d'être au rendez-vous de Santé en 7. Le tour des informations concoctées par nos rédacteurs cette semaine, c'est maintenant et tout de suite. Merci de rester fidèles à Radio Afrique Santé. On démarre par ce registre santé mentale. La journée du dimanche 21 janvier 2024 est dédiée aux câlins. On parle de journée internationale des câlins. Occasion pour nous de revenir sur les bienfaits du câlin sur notre santé mentale. Mesdames et messieurs, le câlin est le principal moyen que l'on peut utiliser pour démontrer son affection, sa tendresse envers son prochain. Les câlins sont des gestes simples, mais très importants qui favorisent une meilleure santé mentale et même physique. Pour plus d'informations sur l'importance des câlins chez l'homme, suivons cet élément réalisé par Nadira Diop-Pérégué et diffusé dans nos éditions du lundi 22 janvier 2024.
Des marques d'affection entre deux ou plusieurs personnes. Prendre quelqu'un dans ses bras est une manière de renforcer les liens émotionnels tels que l'amour, l'affection et l'amitié. Quelques citoyens rencontrés dans la ville d'Abomey-Calavi nous disent pourquoi ils aiment les câlins et ce qu'ils ressentent lorsqu'ils font ou reçoivent des câlins.
Moi, j'adore tellement les câlins parce que quand vous êtes en train de faire des câlins, une personne vient et puis vous prend dans ses bras. C'est comme si on se sent en sécurité. C'est comme si on dépendait de la personne en ce moment-là. Quand je fais les câlins, il y a un sentiment d'appartenance. Ça donne aussi des papillons dans le dos, dans le ventre, partout.
J'adore les câlins. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me relaxer. Parce que quand on te fait le câlin, on sent la chaleur de l'autre. Ça reflète l'amour que nous avons pour notre prochain. J'ai la paix du cœur. Très souvent, j'oublie mes soucis.
Les câlins jouent un rôle très important dans la vie de l'homme car ils permettent de réduire les risques de problèmes de tension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Ceci grâce à la sécrétion d'endorphines. C'est ce que nous explique Michèle Ange Sebapo, elle est psychologue clinicienne.
Les câlins permettent de réduire considérablement le niveau de stress et d'anxiété. Ils permettent l'amélioration de l'humeur grâce à la libération d'endorphines. C'est une hormone qui permet de réguler le stress. Ils permettent de renforcer le système immunitaire, la promotion d'un lien émotionnel fort avec les autres. Les câlins peuvent également contribuer à l'amélioration de la gestion de la sexualité chez l'homme.
À noter que les câlins n'ont pas que des vertus sur la santé mentale, ils ont aussi des vertus sur notre santé physique.
Nadira Diop-Pérégué sur Radio Afrique Santé. L'actualité cette semaine, c'est aussi la sortie du directeur de la vaccination et de la logistique de l'Agence nationale des soins de santé primaire au ministère de la Santé au sujet des rumeurs sur l'efficacité du vaccin RTSS. Dr Landry Coclet a levé toute équivoque sur l'efficacité des dernières doses de vaccins réceptionnées par le Bénin le 15 janvier dernier. En effet, il circule depuis peu plusieurs ragots sur le vaccin selon lesquels il y aurait des effets secondaires après vaccination, mettant ainsi la population béninoise dans une psychose. Une rumeur que vient dénouer le docteur Landry Coclet, à l'en croire, le vaccin est efficace à près de 80% et prometteur pour atténuer les conséquences du paludisme. On l'écoute.
Non, le vaccin, comme tous les vaccins, contient juste des substances qui amènent l'organisme à développer une immunité. Je crois qu'on en a longuement parlé pour ce qui concerne les vaccins. Et donc, c'est le cas du vaccin contre le paludisme. Il a été conçu de manière à ce que l'organisme, qui a été vacciné, puisse développer de la résistance. Mais les effets indésirables du vaccin contre le paludisme ne sont pas différents des effets indésirables classiques des vaccins que nous avons l'habitude d'administrer et que les moments qu'on est déjà la fièvre, la douleur, ou une érection, l'irritabilité. En dehors de ces effets classiques, il n'y a pas eu finalement d'effet d'état qui pourrait être attribué à la vaccination contre le paludisme. Je vous rassure, comme c'est le cas pour les vaccins, nous avons près de 13 vaccins que nous administrons dans nos formations sanitaires et le vaccin contre le poliovirus a le même profil de sécurité que ces vaccins. Un vaccin, lorsqu'il est développé, juste à être mis sur le marché et à être utilisé à la volonté, et par principe, a franchi des étapes où il est efficace en termes de son efficacité intrinsèque à 100%. Maintenant, quand il est mis dans une certaine population, combien de personnes peuvent avoir cette efficacité à 100%? C'est tout ça maintenant que les discussions se mènent. Et comme je l'ai dit, pour le vaccin contre le paludisme, il est démontré, en tout cas des données que nous avons, que utilisé avec l'ensemble des mesures préventives qui sont déjà en cours contre le paludisme, il prévient à près de 80% le cas de paludisme. Donc, sur cette ligne d'efficacité, on est sûr de ça. On est sûr également qu'il réduit de plus de 50% les cas de paludisme grave qui aboutissent aux hospitalisations. Et on est sûr également qu'il réduit de plus de 40% les cas de transfusion sanguine. Donc, ça, c'est des données que nous avons en tête. Il y en a plein sur l'efficacité. Donc, ça ne dépend pas de quel point d'efficacité vous voulez apprécier par rapport à ce vaccin.
Et si le paludisme a déjà son vaccin, le choléra, lui, non. Alors que les cas de choléra se multiplient en Afrique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a publié un nouveau rapport dans lequel il décrit la situation critique en Afrique de l'Est. Seulement en 2023, plus de 200 000 victimes ont été recensées dans cette sous-région du continent, dont plus de 3 000 décès. Depuis octobre 2022, la région aride du nord du Kenya est également affectée par une épidémie de choléra déclenchée par l'impact d'une sécheresse prolongée, à l'en croire. Le pays a enregistré plus de 7122 décès à la date du 26 mars 2023. Au Zambie, depuis le début de l'épidémie en février 2023, plus de 18 000 cas ont été signalés dans les 10 provinces avec 71 décès confirmés et plus de 300 décès présumés. Les provinces de Yara sont les plus touchées avec un nouveau cas sur 6 concernant les enfants de moins de 5 ans. On en vient à cette info, cette actualité qui a fait la une des journaux cette semaine. C'est bien sûr le dernier hommage à Jérôme Kalos, journaliste et directeur de la radio KPFM. Les obsèques de Jérôme Kalos, écrivain, journaliste et directeur de la radio KPFM, ont eu lieu à la cathédrale à Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porte-Novo, jeudi 25 janvier 2024. La cérémonie a réuni les proches, mais aussi des personnalités des médias, dont la famille KPFM, des représentants du monde politique ainsi que des anonymes. Fortuné d'outils pour les échos sonores.
Silence plat à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porte-Novo. La plupart des visages rencontrés sur le pavé de l'église étaient en larmes. On l'aurait deviné. Un grand homme s'en est allé, Jérôme Kalos. Baobab de la presse béninoise devrait être conduit dans sa dernière demeure. Le Kobia pénètre la maison de Dieu. Le père Modesto accueille la dépouille de Jérôme sur le pavé de la cathédrale. De nombreux hommes des médias, en deuil par la disparition de leurs confrères, assistent à la cérémonie pour lui rendre hommage. Parmi eux figuraient Souley Issiaka, Steve Fassia, Don Clamabalo, Moïse Dosoumon ainsi que les employés de KPFM. Outre ses collègues, de nombreuses personnalités telles que Louis Vlavounou, Souleymane Karimou, Aurélie Souley Adam, Wilfried Liandre Mbedi, Christelle Rundonbo, Théodore Olo, Idi Kola Olé et Robert Dessou ont assisté à la cérémonie. La cérémonie a été empreinte de vie, à l'image de celui qui savait fédérer. Les célébrants ont procédé au rituel de l'eau et de l'encens. Après l'acclamation, l'évangile, la prière universelle et le chant à Marie, le père Modeste a mis l'accent sur les liens d'amour tissés par Jérôme avec ses amis et sa famille. Et puis il a eu ce témoignage du père Modesto.
Il y a quelques semaines encore, plus précisément le samedi 9 décembre 2023, lorsque nous nous vîmes à l'office des défunts devant le cercueil de maman Thérèse Wessou, épouse Carlos, et qu'il me disait d'une voix tremblante, « Mon père, vous allez bien ? Saluez mon épouse. » Je ne me doutais point que c'était nos adieux.
Jérôme Kalous avait choisi une chanson pour le jour de ses obsèques. La chorale s'est exécutée.
La chorale prendra maintenant pour nous ce chant que M. Carlos a désiré de toute son âme entendre le jour de ses obsèques.
Après le chant d'adieu et la levée du corps, journaliste et ami rendu un hommage à Jérôme Kalous. Il garde de lui de bons souvenirs. Moïse Dossoumont, journaliste, et Raphaël Yebou, directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi.
Nous n'avons commencé par se resserrer quand mon patron Malik Goumina m'a demandé de commencer par m'exercer pour les chroniques. Donc, en cette période-là, il y a de cela 11-12 ans, je me suis tourné vers la plupart de ceux qui rédigeaient des chroniques et des éditoriaux dans le temps, mais personne ne m'a ouvert la porte. Mais dès que j'ai appelé Jérôme Kalous, en même temps, il m'a dit « Viens, je suis là ». Il m'a pris par la main, il m'a guidé presque tous les jours. Sans lui, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Il ne me connaissait de nulle part, je ne suis pas membre de sa famille. Et dès qu'il a entendu mon nom, dès que j'ai exprimé mon besoin, spontanément, il s'est mis à mon service et m'a pu lâcher. Je l'ai revu il y a quelques mois encore, on discutait de tout et de rien. Au-delà du professionnel qu'il était, au-delà de l'homme serviable, toujours disponible, il a été aussi comme un père pour moi.
Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ses œuvres pour le compte de mon mémoire de maîtrise. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Je crois que j'ai été émerveillé. Quelqu'un qui a une vaste culture, quelqu'un qui a eu beaucoup de titres et qui, pour cela, pouvait écarter les autres, mais au contraire, c'est lui qui attire les autres. Il peut se mettre avec le plus petit et parler avec lui de façon détendue. C'est une grande qualité. En même temps, il est très attaché à l'homme, il est très attaché au Bénin, il est très attaché à l'Afrique. Je crois que c'est un modèle de vie. C'était un saint homme.
Jérôme Kalous avait bâti toute sa carrière dans la presse béninoise et ivoirienne. Sa dépouille repose désormais au cimetière municipal de Porto Novo.
La 71e édition des Journées mondiales des malades de la lèpre se déroule les 26, 27 et 28 janvier 2024. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes sont atteintes de la lèpre dans le monde. Pour l'année 2022, l'Organisation mondiale de la santé déclarait environ 175 000 nouveaux cas de lèpre. Depuis ces 5 dernières années, le Bénin tourne en moyenne autour de 100 à 200 nouveaux cas de la lèpre chaque année. Docteur Jean Gabin Ouezo, coordinateur du programme national de lutte contre la lèpre, nous dit ici l'essentiel à savoir de la lèpre.
La lèpre est une maladie tropicale négligée, infectieuse, chronique et transmissible. C'est une maladie préférentiellement de la peau due à un microbe, une bactérie appelée Mycobacterium leprae. Mais cette maladie attaque la peau, les nerfs périphériques. La lèpre se manifeste toujours par l'apparition d'une ou des taches claires sur la peau de l'individu. Les taches sont plus claires que la couleur du reste de la peau. Elle peut être rouge. Une des caractéristiques essentielles de ces taches est qu'elles sont insensibles au toucher. Le malade n'est pas du tout sensible au niveau des taches. En plus de taches, il peut y avoir d'autres symptômes comme des fourmillements au niveau des pieds et des mains, voire engourdissement, des douleurs et gonflement ou des faiblesses au niveau du trajet des filets nerveux.
Toutes les personnes peuvent souffrir de la lèpre, même les enfants. Le docteur Jean Gabin revient sur les causes de cette pathologie.
Pendant donc les échanges ou lors d'un éternuement ou d'une toux, le malade non traité projette des gouttelettes contenant des bactéries qui infectent son entourage. La transmission peut se faire également au contact des ulcérations ou des plaies cutanées ou par l'intermédiaire d'objets souillés du malade non traité. La proximité familiale induisant des contacts étroits et durables au niveau familial. Les questions d'hygiène corporelle et environnementale associées au non-assainissement du milieu peuvent être de gros facteurs de risque. L'exposition aux animaux, mais l'âge aussi intervient. La période d'incubation, qui est exceptionnellement longue, plusieurs années, explique que la maladie se contracte durant la petite enfance. Elle peut apparaître ensuite des années après chez les grands enfants ou chez les jeunes adultes, puis un deuxième pic peut survenir à partir de 30 ans.
La lèpre n'est plus contagieuse une fois que le traitement a commencé, s'il est bien suivi. Dr Jean-Gabin Wezo, coordinateur du programme national de lutte contre la lèpre, nous parle des moyens de prévention et du traitement de la lèpre.
Les complications touchent essentiellement les yeux, les mains et les pieds. On peut avoir une perte de la vue avec impossibilité de fermer les yeux. Les paupières sont atteintes de même que la cornée. On a souvent, et c'est fréquent, une paralysie des mains et des pieds qui va conduire à l'amputation des doigts et des orteils. Le programme national de lutte contre la lèpre, dans ses stratégies de lutte, fait une grande part à la prévention des incapacités et à la réadaptation physique. Nous incitons dans nos causeries sur le dépistage précoce suivi du traitement qui permet de vite guérir le malade et éviter les complications, source de stigmatisation. Le traitement de la lèpre est simple et associe trois antibiotiques spécifiques. En fonction de la classification de la lèpre, la durée du traitement varie. Ainsi, pour simplifier la prise en charge, la lèpre est classée en deux catégories sur la base des tâches. Pendant donc les échanges ou lors d'un éternuement ou d'une toux, le malade non traité projette des gouttelettes contenant des bactéries qui infectent son entourage. La transmission peut se faire également au contact des...
Un registre santé sexuelle et reproductive à présent. L'abstinence est une continence sexuelle, mais c'est le fait de se garder d'avoir des rapports sexuels. L'abstinence a plusieurs avantages. Elle permet d'éviter, par exemple, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, SIDA, les IST, etc. Certains jeunes ignorent les risques qu'ils encourent en refusant de s'abstenir. C'est ce que nous dit ici Sylvia Cassa, elle est sage-femme diplômée d'État.
Une jeune fille qui n'a pas encore l'âge de se marier, même qui a l'âge de se marier, si elle tombe enceinte et que peut-être elle ne sait même pas c'est qui l'auteur de sa grossesse, peut-être parce qu'elle a plusieurs partenaires, elle se serait abstenue, il n'y aurait pas eu tout ça. Et les jeunes garçons aussi, imagine tu as une copine qui est enceinte, tes parents même se débrouillent pour te payer la scolarité et tout, et tu te permets d'enceinter une fille. Tu peux être amené à abandonner les cours pour chercher l'argent et t'occuper de la fille et de son enfant et de toi-même, parce que là les parents vont se désengager. Et le garçon en ce moment va perdre aussi une année, donc on peut assister à un abandon ou à un retard au niveau de ses cours.
La sage-femme Sylvia Cassa fait des recommandations et prodigue aussi des conseils à ces personnes qui ne peuvent pas s'abstenir. On l'écoute.
Ce que moi je recommande, c'est que l'on s'abstient jusqu'au mariage. Voilà, parce que c'est ce que Dieu recommande. Maintenant, si tu ne peux pas t'abstenir jusqu'au mariage, qu'au moins que les gens utilisent les préservatifs. Systématiquement ça. Parce que je ne vais pas parler des autres méthodes. Pour moi, les autres méthodes ne protègent, n'ont pas double protection. Le préservatif, jusqu'à nos jours, est la seule méthode qui protège doublement. Donc, tu ne vas pas tomber enceinte, tu n'auras pas non plus les infections. Mais c'est toujours mieux de s'abstenir en tout cas.
Bouclons le registre santé sexuelle et reproductive et parlons nutrition à présent. Prendre de la bouillie avec du sucre au petit déjeuner pourrait être préjudiciable à la santé selon la nutritionniste Rebecca Sabourin. Bouillie, le petit déjeuner, ça vous le savez, typique du peuple béninois, qu'elle soit faite à base de maïs, de mil, de sorgho, de soja, de tapioca et même du riz. La bouillie reste le choix par excellence pour tout type d'aliments. Il n'est pas rare de voir des enfants et adultes de tout âge s'adonner à la consommation de la bouillie. Comment peut-on justifier cette préférence? Élément de réponse avec Mariella Dou.
Il est 8h du matin. Chez Dame Fatimata, l'affluence est de taille. Pourquoi sont-ils là? C'est pour prendre le petit déjeuner, la bouillie. Petits et grands se ruent pour être servis. Au Bénin, il est de coutume de prendre de la bouillie au petit déjeuner.
C'est un aliment fait à base de farine de céréales dont la consistance est plus ou moins épaisse et accompagné parfois de lait concentré. Aklui, du gigoko, du soja, etc. Ces aliments varient de nature d'une région à une autre, mais font l'unanimité auprès de la population. Suivez ici les raisons évoquées par quelques habitués.
Je prends la bouillie tous les matins. J'aime prendre la bouillie tout simplement parce que voilà, c'est facile à prendre et c'est plus ou moins facile à digérer. Ça ne nous s'alourdit pas pour les tâches de la journée. Le type de bouillie que j'aime, c'est le aklui ou bien la bouillie de soja.
Soja, aklui, encore bouillie de tapioca.
Moi, je prends la bouillie chaque matin pour bien commencer la journée. Je le prépare moi-même. Je prends la bouillie de aklui pour éviter au maximum de consommer de la graisse le matin.
J'aime prendre les bouillies le matin parce que une fois déjà, quand tu prends la bouillie le matin, ça permet de réchauffer un peu les aliments que tu avais consommés depuis hier. Donc, ça permet de réchauffer le ventre en quelque sorte, réchauffer le ventre et mettre toutes les cellules qui sont dans l'organe actifs pour attaquer la journée.
Les raisons sont donc diverses. La bouillie, quelle que soit sa nature, est appréciée et jugée indispensable par la population. Mais que disent les spécialistes en nutrition? La nutritionniste diététiste Rebecca Sagbouran apporte des clarifications.
Les bouillies étant faites de façon générale à base des céréales, et les céréales étant classées dans la catégorie des aliments énergétiques, ont pour rôle de fournir de l'énergie à l'organisme. Donc, ce sont des aliments énergétiques, quelle que soit la bouillie, surtout si c'est une bouillie faite à base de céréales, de tubercules ou de racines. Donc la bouillie d'igname par exemple, la bouillie de manioc et la bouillie des céréales, par exemple de la bouillie de maïs, bouillie de mil, bouillie de sorgho, bouillie de blé, etc. Et quand on parle de céréales, quand ce sont des céréales à grains entiers, les céréales à grains entiers contiennent de façon générale des vitamines, surtout des vitamines du complexe B. Et les vitamines ont pour rôle principal de protéger l'organisme en quelque sorte contre les infections et autres. Les enfants à partir de 6 mois, l'idéal chez ces enfants-là, c'est de commencer par les éduquer avec de la bouillie.
Il est donc clair que la bouillie est très bénéfique en apport nutritionnel. Cependant, il est nécessaire de veiller à la prendre comme cela se doit et de ne pas y ajouter des produits pouvant annuler son efficacité. Rebecca Sagbouran, nutritionniste diététiste.
La plupart de ceux qui consomment ces aliments le matin font souvent recours au sucre. Donc on prend souvent de la bouillie sucrée. Rares sont ceux qui consomment ces aliments-là sans ajouter le sucre. Et consommer la bouillie sucrée tous les jours, c'est quand même excéder dans les besoins nutritionnels en glucides, ce qui peut exposer à la prise de poids, à l'obésité donc, ou au diabète. Le petit déjeuner est très important pour l'être humain parce que c'est avec ce repas qu'on démarre la journée. L'organisme a besoin de carburant pour bien fonctionner, pour bien démarrer sa journée. Donc le petit déjeuner est très important, mais il faut savoir choisir son petit déjeuner. Il ne faut pas tout le temps faire recours aux aliments sucrés au petit déjeuner.
À noter que trop garnir sa bouillie est donc la meilleure manière d'anéantir l'effet escompté.
Registre Société du question à présent, faute de moyens pour se nourrir pendant la récréation, certains apprenants décident d'abandonner les classes, ceci afin de s'épargner la tortue de voir le camarade se restaurer à l'école primaire publique de Tanta Kinkusa, une localité de la commune de Zé. Cette situation a fait plusieurs abandons. Bonne nouvelle, depuis 2 ans déjà, l'arrivée de la cantine scolaire dans cette école a redonné espoir à toute la population. Impact de la cantine sur l'école primaire publique de Tanta Kinkusa, c'est un reportage signé Fortuné Doti.
L'école primaire publique de Tanta Kinkusa, jadis quasiment déserte après les cours de la matinée, est désormais animée. La cantine scolaire est venue redonner le goût de l'école aux enfants de cette localité et à leurs parents qui peinaient à leur assurer le déjeuner. Valentin Adampeto, enseignant à l'école primaire publique de Tantakinkoussa.
En temps, au moment où il n'y avait pas de cantine, la fréquentation était faible. Mais à l'arrivée de la cantine, on a constaté que les enfants sont plus fréquents à l'école qu'au début où on était ici. On a constaté que l'effectif a aussi augmenté. Sinon, en temps, les enfants viennent à l'école le matin, mais le soir, il y a un bon nombre qui vont se cacher encore à la maison. Il y en a qui viennent sans le moindre sou pour leur nourriture. Et déjà à partir de 10 heures, ils demandent à aller manger à la maison. Et c'est comme ça qu'on a des difficultés par rapport à l'exécution du programme qui nous est confié. Parce que quand il faut revenir chaque fois sur ce qu'on a déjà fait, comme ça pesait sur nous. Mais à l'arrivée de la cantine, on a constaté que cette façon de faire les enfants a commencé par diminuer, que ça allait d'aller pour le moment.
Les parents, en dehors des souscriptions qu'il faut pour l'achat des condiments pour assaisonner le repas, peuvent aussi accompagner la cantine en faisant des dons de toute nature. Mais à l'EPP Tantakinkoussa, les parents peinent à payer les 25 francs journaliers requis. Motin Aouyan, enseignant représentant du directeur de l'école primaire publique de Tantakinkoussa.
Dans les rubriques de la cantine, les parents, dehors des cotisations 25 francs journaliers, les parents peuvent apporter des dons ou bien en dehors, à défaut de payer les 25 francs pour leurs enfants, ils peuvent apporter peut-être des condiments, mais les parents n'arrivent pas à nous accompagner en tant que tels, du moins sur le plan financier ou matériel. Souvent des âgés où ils sont conviés, on sent qu'ils ont de la volonté, certaines décisions sont prises, mais l'application de cette décision peine. La cantine scolaire en réalité était venue pour les accompagner et non le contraire. Les parents n'arrivent pas à nous aider, mais nous vivons dans le milieu, nous arrivons à comprendre. Nous savons que la plupart sont des artisans, des cultivateurs. Donc, c'est aussi déjà difficile de leur côté de joindre les deux bouts.
Les enseignants et dirigeants de la cantine scolaire de l'EPP Tantakinkoussa lancent une invite aux parents d'élèves. Valentin Adampeto, enseignant à l'école primaire publique de Tantakinkoussa.
Si les parents pouvaient nous accompagner dans le programme de cantine, ça nous ferait vraiment bien. Parfois, ça nous prend presque tout le temps pour la collecte des sous. Puis, il faut faire vraiment de pression sur les enfants avant de l'avoir. Nous, si le gouvernement pouvait penser à ce problème-là, voir comment on peut essayer de nous accompagner encore, si les condiments pouvaient venir, ou bien s'il faut encore de sensibilisation, ou bien imposer aux parents le paiement des sous pour l'achat de condiments, ce serait bon. Ça va beaucoup nous aider. C'est 25 francs. Et beaucoup ne paient pas. Plus de la moitié parfois ne paient pas.
Réticentes à donner leurs impressions par rapport à l'impact de la cantine scolaire sur l'école primaire publique de Tantakinkoussa, les populations se réjouissent tout de même du changement intervenu dans l'école et saluent cette initiative gouvernementale.
Nous fermons ce registre Société du Cachon et ouvrons celui de la culture béninoise. Deux infos au menu de ce registre culture béninoise. La première, c'est bien sûr la conférence 10 janvier. Après, c'est le nom d'une conférence culturelle qui s'est déroulée hier samedi 27 janvier 2024. Cet événement qui est à sa 7e édition est une initiative de l'université Raymond Kovi. À Sogba, l'annonce a été faite aux hommes des médias mardi dernier à la salle de conférence de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi. Mais quel est le bien fondé de l'organisation d'une telle conférence et quels sont les défis? Raymond Kovi à Sogba répond ici au micro de Fortuné Doty.
Pour nous, 10 janvier et après en lui-même a été une initiative a priori spontanée. D'abord, dans tout le Bénin, personne ne s'est préoccupé de la nature intellectuelle et scientifique du 10 janvier qui a été mise en place en 90. En 23 ans d'édition, les mandats de Mathieu Kérékou et de Yahi Boni ont été vécus par l'absence des deux autorités centrales à toutes les manifestations de janvier. A fortiori, la question à un franc devrait être ainsi formulée. Que faire du 10 janvier? À l'université d'Abomey-Calavi, un sociologue aperçut le vide de questionnement. Mais devant inventer la biologie sur l'instigation de la fondation de cette nouvelle science par Jean-Marie Cossy à pouvoir, j'ai transformé la problématique de mon cours de biologie en tribune pédagogique et populaire pour associer les étudiants au projet d'une conférence nationale de réflexion. Ainsi est née la conférence 10 janvier et après.
Faisons l'autopromotion de l'obotechnologie et le thème au cœur de cette conférence rappelle Raymond Kovi Asogba. Il est au micro de Fortuné Doty à nouveau.
Il s'agira pour nous de conquérir le contenu du thème. Faisons l'autopromotion de nos beaux technologies. Ce thème des beaux technologies est censé devenir substance des réflexions à mener pour les 10 années prochaines. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Bénin est à un carrefour de son histoire. C'est maintenant que certains pensent qu'il faut lier le Fa à l'Église. D'autres pensent que la profondeur du Vaudou se limite à l'investissement financier, sans oublier la tentative d'enliser le centre d'intérêt des Béninois vers des thématiques qui ne concernent que les peuples de leur pays, l'homosexualité, le baptême des couples homosexuels. Cette thématique tente donc de nous rendre aveugles à nos beaux technologies. Et nous avons donc pensé que ce thème sera approprié pour les 10 années prochaines.
Deuxième élément de ce registre culture béninoise, disparition progressive des prénoms endogènes et quel impact sur la culture avec la mondialisation et la modernité. Les cultures sont de plus en plus menacées par la disparition progressive des prénoms endogènes. Nombreux sont les parents qui ne donnent plus de prénoms endogènes à leurs enfants. Et même quand un prénom endogène est donné à un enfant, c'est souvent seulement à la maison que ce nom est exploité. Il n'est point usité en public. Et quelle est l'importance des prénoms endogènes? C'est l'interrogation à laquelle tente de répondre le sociologue et enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, Bruno Mocho, au micro de Romaric Tokbe.
Dans la culture béninoise, les prénoms endogènes donnés aux enfants occupent une place très importante. Mais, de nos jours, force est de constater que les prénoms tels que Agossi, Adjoa, Senan, Oru, Bio, Doji, Yenoukoumé et Kossi, qui sont des marques identitaires des groupes socioculturels béninois, disparaissent au profit de prénoms occidentaux, voire composés, qui n'ont de sens que dans la tonalité. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier une telle chose? Bruno Mocho, sociologue et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi.
Il peut s'agir d'une certaine volonté et il peut y avoir aussi des raisons qui soient des raisons cachées. Si tu es né, par exemple, un mercredi, une fille, et puis on va t'appeler Aqua, ainsi de suite, et que dans l'expérience des Aqua que tu as connues, ce n'est pas ce que ça doit être. Donc, à un certain moment, tu peux s'abstenir de donner, compte tenu des expériences, après avoir eu connaissance de ce qu'ils sont. Est-ce que je serais d'accord de donner ce prénom? Et mieux encore, il y a que, bon, aujourd'hui, il y a les religions révélées, et tout ça là, ça nous amène à renier même ce qui est de nous, ce qui nous cimente et ce qui nous a permis d'être là.
Nos prénoms endogènes restent notre patrimoine culturel. Quelles conséquences cet abandon de nos traditions qui consiste à attribuer des prénoms endogènes peut avoir?
Les conséquences, c'est que bon, ce n'est pas des conséquences liées au fait que le parent ne l'a pas donné, non. Moi, j'aurais souhaité l'avoir parce que mes grands frères en ont. Et ça me permet de savoir qu'ils sont nés tel jour. Mais moi, je ne sais pas si je suis né un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Alors que chez nous, c'est que quand tu es né un lundi, on sait mardi, mercredi, si tu es un garçon, si tu es une fille. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est déjà quelque chose qui vous permet de vous situer déjà du point de vue des jours de naissance. Parce que si on ne vous a pas écrit ça sur votre acte de naissance, vous ne saurez pas si vous êtes né un dimanche, vendredi, samedi ou bien un mercredi. Chacun est libre de donner des prénoms endogènes à son enfant. Ce n'est pas coercitif. Et du moment où ce n'est pas obligatoire, donc un parent peut donner comme peut ne pas donner. Mais il peut y avoir des situations où c'est le prénom endogène qui départage.
Selon le sociologue Bruno Mocho, il est utile de donner des prénoms endogènes aux enfants, même si l'on est chrétien.
Vous savez que la religion, c'est l'opium du peuple, comme le dit Karl Marx. Donc s'il y a cette dynamique qui est là, ça va être difficile de les conseiller. Mais c'est utile de donner un prénom endogène à son enfant. Moi, je n'en ai pas eu, mais j'ai donné à tous mes enfants. Vous voyez, et chacun a son prénom endogène qui s'inscrit dans la dynamique, qui fait même la part des choses par rapport aux uns et aux autres. Donc, même si tu es chrétien, il y a des noms de résonance chrétienne qui sont endogènes. Quand je dis Maouyon, c'est on dit Maouna. Donc, ce sont des éléments qui, à un certain moment, ont des répondants dans nos cultures endogènes, dans nos religions, dans nos rapports avec les divinités ou bien avec ceux, les membres de nos ancêtres, tout, tout, tout.
Au Bénin, et comme partout en Afrique, les prénoms endogènes constituent un élément identitaire qui influe sur la vie de celui qui les porte.
Et c'est tout pour ce numéro de Santé en 7. Présentation Erwan Olili, collaboration technique Dibu Charihenou. Bon dimanche et surtout bon repos à vous.